Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Olivier Bois, journaliste à la rédaction d'RTL, et nous allons revenir dans cet épisode sur l'une des évasions les plus spectaculaires de l'histoire criminelle française. Nous sommes le 12 mars 2003. Antonio Ferrara, le petit voyou de banlieue devenu caïd, fait sauter les murs de la prison de Fresnes. Tout est calme cette nuit-là, une nuit comme toutes les autres, 6000 détenus dorment dans cette prison qui a la particularité d'être installée au cœur de la ville et qui a surtout la réputation d'être l'une des plus sécurisées de France. À 4h du matin, Damien, 24 ans, surveillant stagiaire, est en poste depuis 10 minutes dans le Mirador numéro 4, d'où il a une vue globale sur tout le domaine pénitentiaire. C'est lui qui remarque en premier cette voiture, phare allumé, qui longe les murs d'enceinte de la prison. C'est inhabituel dans ce périmètre où seul le personnel, les avocats ou les policiers sont autorisés à circuler, ce qui n'arrive quasiment jamais au milieu de la nuit. À 4h15, l'inhabituel devient inquiétant. Une deuxième voiture se gare dans le secteur. Damien surprend maintenant ces ombres qui glissent dans la nuit. Et ce sont bientôt une douzaine d'hommes cagoulés, gantés, portant un brassard de police qui prennent position aux endroits stratégiques à l'extérieur de la maison d'arrêt. Le commando est rapide, organisé et se met bientôt à mitrailler à l'arme de guerre les miradors 3 et 4 dont les fenêtres se fissurent. Damien, muni de sa seule carabine à 20 coups, se jette au sol. La riposte pour lui est impossible. Il ne peut qu'appeler ses collègues au PC sécurité à l'intérieur pour les prévenir qu'il se fait tirer dessus. En bas, le reste du commando progresse, protégé toujours par les complices qui tiennent les miradors en respect. C'est une première charge explosive qui est posée sur la prison. La détonation arrache une porte de service. Le commando entre juste à côté du quartier disciplinaire, à l'endroit prévu, en face de la cellule numéro 9, où la veille au soir, Antonio Ferrara a pris soin d'être transféré. Lui non plus n'a pas chômé. Depuis qu'il a entendu ses complices passer à l'action, il a récupéré un pain d'explosif caché dans sa cellule. Il le pose sur les barreaux avant de se réfugier comme il le peut dans un coin de la pièce. L'explosion dans ces quelques mètres carrés est très violente. Antonio Ferrara est sonné, sa cellule est complètement inondée, toutes les canalisations ont sauté. Mais il est 4h30 du matin, la prison de Fresnes est éventrée. Antonio Ferrara, lui, disparaît dans la nuit sous les hurrahs des autres détenus. L'opération a duré 12 minutes. Pour la première fois, une prison a été attaquée, alarme de guerre, sans que personne ne puisse faire quoi que ce soit. L'affront est retentissant et fait la une de tous les médias quelques heures plus tard. Au matin, le ministre de la Justice de l'époque, Dominique Perben, est sur place. Ferrara, lui, est en cavale. Tous les policiers spécialisés n'ont plus qu'un objectif. Retrouver celui qui a gagné cette nuit-là son surnom dans la légende du grand banditisme, le roi de la Belle. Et justement, notre voix du crime est l'un des premiers policiers qu'on réveille cette nuit-là. Le commissaire divisionnaire Christophe Molmy, à l'époque il est le directeur adjoint de l'OCRB, l'Office central pour la répression du banditisme. Ce sont ces hommes qui, quelques mois auparavant, ont arrêté une première fois Antonio Ferrara. Bonjour Christophe Molmy.
Bonjour.
Vous vous souvenez de ce coup de fil qui vous annonce l'évasion d'Antonio Ferrara ?
Oui, je me souviens très bien. Alors d'abord, c'était la deuxième fois, l'histoire bégayait, puisque quelques semaines avant, on avait eu l'évasion d'un de ses complices, un Corse, Joseph Manconi, qui s'était évadé de Borgo, et dans les mêmes conditions, on m'avait réveillé la nuit. De la même manière, je m'étais retrouvé, en fait, je m'isolais, on avait un tout petit appartement à l'époque, je ne voulais pas réveiller ma femme, donc j'allais dans les toilettes pour téléphoner. Et assis sur les toilettes en pleine nuit, je me suis fait expliquer une première fois, puis une seconde fois, l'évasion de voyous qu'on avait mis autant de mal à interpeller.
Et donc là, vous vous mettez en route directement ?
Oui, alors ce sont les collègues parisiens qui sont chargés de l'enquête sur l'évasion, mais je ressens le besoin d'aller voir sur place. C'est intuitif, hein, je pense, hein, mais c'est de voir par mes propres yeux, peut-être que j'y croyais pas, mais de voir à quoi ça ressemble, quoi. Et j'ai pas été déçu. Sur place, c'est le chaos. Les collègues sont en train de travailler, mais le sol est jonché de douille. Ils ont fait sauter au cadre explosif une première porte, une seconde avec une ogive qui était placée sur un fusil. La cellule avait été plastiquée de l'intérieur et de l'extérieur, donc tout avait sauté. Bon, voilà, c'était une scène de guerre.
Plastiqué de l'intérieur, ça veut dire que Ferrara, il avait, on est d'accord, lui-même des explosifs dans sa cellule pour faire sauter les barreaux de sa cellule.
Oui, oui, absolument. Il a d'abord fait sauter de l'intérieur et comme ça n'a pas suffi, ses complices ont mis une deuxième charge de l'extérieur.
Est-ce que vous êtes surpris par le côté professionnel et l'envergure qu'il faut pour faire venir une équipe pour se faire sortir comme ça de prison ?
Bah oui et non, parce que Ferrara était soupçonné de faire partie d'une équipe plurielle, une équipe à tiroir, comme on dit, hein, qui mutait au fur et à mesure des affaires, mais une équipe plurielle de voyous qui attaquaient des fourgons blindés. Alors attaquer un fourgon blindé, c'est un véhicule, hein, donc il se déplace, c'est infiniment plus compliqué qu'attaquer une prison qui, par nature, ne bouge pas. Et en fait, ils ont fait la même chose. Hein. Ils ont fait sauter une porte à l'explos plutôt que la paroi d'un fourgon blindé. Et ils ont tiré dessus et puis ils sont partis en plus en pleine nuit, là où il n'y a personne. Donc, je suis agacé, mais je suis surtout agacé parce que quelques temps avant, on avait prévenu l'administration pénitentiaire qu'on avait reçu un tuyau qui nous indiquait que Ferrara risquait de s'évader. Et c'était juste après l'évasion de Manconi, donc c'était pas faute de les avoir prévenus. Et malgré tout, ils l'avaient laissé sur place et on avait vu le résultat.
Alors après cette évasion spectaculaire, Antonio Ferrara devient l'ennemi public numéro 2, juste après le Corsivan Colonna, qui est lui-même en cavale à cette époque. Est-ce que vous ressentez une pression particulière ?
On comprend clairement qu'il faut le retrouver. Oui. Alors c'est surtout le chef de service, hein. En l'occurrence c'était Hervé Lafranc, mon patron, qui absorbait un peu toute cette pression. On a eu cette chance, mais on comprenait très bien qu'il était urgent de le retrouver. Oui.
Vous l'aviez arrêté 8 mois auparavant seulement ?
Bah oui, enfin le service, là, j'étais pas tout seul, mais on l'avait déjà effectivement arrêté 8 mois avant, et ça venait au bout d'une très très longue enquête qui s'inscrivait dans plusieurs enquêtes d'attaques de fourgons blindés. Tout ça, c'est 2 ans de travail, hein. Et donc c'est un coup dur sur le moment, c'est difficile à encaisser.
Christophe Molmy, vous êtes particulièrement touché, on l'imagine, par cette évasion parce que vous avez mis beaucoup de temps à mettre le grappin sur Antonio Ferrara. C'est vous, on le rappelle, qui aviez été à l'origine de son incarcération à Fresnes. Vous l'aviez arrêté en 2002. Comment s'était déroulée à l'époque cette enquête ?
On a un tuyau qui nous arrive à un moment et qui nous désigne sa compagne, Mylène Châtelain.
C'est un homme amoureux, Antonio Ferrara, à ce moment-là.
Oui, absolument. Mais il est fidèle, hein, parce qu'autant que je sache, il est toujours avec. Hein. Donc, on nous désigne cette jeune femme et on nous dit, voilà, visiblement, il est avec. Et on nous désigne aussi un bar à Orly qu'il fréquenterait. Donc, on travaille là-dessus. On met en place de longues surveillances et un énorme travail de téléphonie qui, doucement, nous conduit à un portable qui semble être le sien. Mais il est extrêmement prudent, il le coupe la journée, il l'allume pas tout le temps. Et on fait du bornage pour essayer de le repérer. Les moyens n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. C'était presque il y a 18 ans. Hein. Donc, on n'avait pas autant de moyens. Les enquêteurs sont pugnaces. Hein. C'est un travail de têtu. Hein. C'est un travail de longue haleine. Et les enquêteurs, donc, en l'occurrence, là, étaient allés très très tôt le matin pour essayer de repérer un véhicule qu'il utiliserait peut-être, c'est-à-dire une mini Austin, dans un secteur assez ramassé. Puis finalement, ils ne voient rien. Ils s'appellent, ils conviennent de prendre un café quand même avant de rentrer au service pour se relâcher. Et ils pénètrent dans un café et ils tombent nez à nez avec lui. Ils appellent pour prévenir, mais effectivement, ils ne sont que deux. Dans le bar, il y a d'autres personnes, mais on ne sait pas s'ils sont liés ou pas à Ferrara. Donc ils font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas. Nous, on réplique aussi vite qu'on peut pour les rejoindre et le cas échéant, si tout le monde est encore dans le bar, interpellé. Et puis le temps qu'on arrive, il est reparti.
Il a reconnu les policiers, à votre avis, c'est ça ?
Ce qui l'a choqué, c'est, ça nous dessert parfois, c'est que les gars avaient des sacs à dos. Donc il voit 2 gars avec des sacs à dos qui gardent au pied, parce qu'évidemment, il y a du matériel dedans. Il trouve ça bizarre et il sort et puis il voit 2 voitures garées à l'extérieur et il retape les voitures. Il comprend que c'est la police, mais il ne sait pas si c'est pour lui. Il s'en va, on reste dans le secteur, on le reprend en pleine face dans un supermarché, mais vraiment par hasard. Et là, c'est pareil, il sent qu'on le regarde, il ne cherche pas à comprendre, il s'en va et là, il part en Espagne. Il reste un petit moment en Espagne, mais comme il n'est pas sûr et certain que c'était pour lui, et qui veut revoir Mylène. Donc il revient. Il revient au début du mois de juillet 2002. Un dispositif est monté là où elle travaillait et on voit une moto arriver, une motard casquée qui l'embarque et qui part. Bon, c'est pas possible d'interpeller parce que d'une part, on n'est pas certain que ce soit lui et d'une, et puis de deux, une moto en mouvement, c'est pas possible d'interpeller sauf à la coucher. C'est pas comme ça qu'on interpelle. Donc là aussi, il y a un travail de téléphonie pour avoir un secteur avec un gros travail de terrain. Les gars redressent la moto au pied d'un immeuble, ils planquent. Et en début de matinée, le lendemain, il voit descendre de l'immeuble Antonio et sa copine qui vont prendre la moto. Là, il est décidé d'interpeller, mais comme il est vicieux, il sent quelque chose que le commun n'aurait pas vu, mais lui, il sent quelque chose, il jette son casque, il part en courant. Il est interpellé un peu plus loin sur les marges du RER d'Atis-Mons.
Et en tout cas, là, vous arrivez à l'interpeller. Il est en train de prendre son sac, d'essayer de prendre quelque chose dans son sac à dos. Vous allez découvrir qu'en fait, il était armé ce jour-là.
Alors, il essaye d'attraper son sac à dos et d'ouvrir. Après, est-ce qu'il voulait prendre son arme ou pas, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y avait une arme à l'intérieur, ça c'est sûr. Il y avait de la monnaie aussi, il y avait beaucoup de monnaie. Il nous a dit qu'il faisait les parcs-mètres, ça nous a fait rire. Bon, ça pourrait être aussi des machines à sous. Il est interpellé, c'est difficile de l'attraper. Après, il fait partie de ces voyous, il y en a d'autres, heureusement, qui mettent tous les moyens pour se sauver, quitte à être dangereux, quitte à tirer, peut-être. Mais en tout cas, dès qu'ils sont interpellés, ils ne bougent plus, ils jouent le jeu. Et dès qu'on se conduit convenablement avec eux, ils se conduisent convenablement avec nous.
Comment il se comporte en garde à vue ?
Il est calme, il se comporte bien, il n'est pas désagréable. Il est un peu joueur, il est un peu taquin. Il dit aux enquêteurs à un moment, faites gaffe, dépêchez-vous de me transférer parce que mes potes sont foutus de venir me chercher. Bon, on ne sait pas trop si c'est une forme de menace ou pas. Il dit à deux autres enquêteurs, mais en rigolant, si vous me laissez sortir, je peux vous donner 1 million d'euros. Et c'est une boutade, mais ça peut aussi être une proposition. Voilà, c'est un garçon qui tente tout, mais c'est un mec agréable et pas agressif. Ouais.
Antonio Ferrara est un nom connu de la police nationale. Il est fiché au grand banditisme depuis les années 1990. Il est très recherché. Quand est-ce que vous entendez, vous, parler pour la première fois d'Antonio Ferrara, Christophe Molnier ?
Alors en fait, c'est mon patron qui a un renseignement d'un autre service qui me donne sa fiche signalétique. Donc, vous savez, les trois photos de chaque profil et de face. Je vois un petit passé assez petit en survêtement, qui a l'air de rigoler d'ailleurs sur la photo. Il n'a pas, à proprement dit, le physique d'un voyou du grand banditisme comme on peut l'imaginer. Corse et Marseillais, enfin l'imaginaire. Puis mon patron me dit, tiens, intéresse-toi à lui. On me dit qu'il serait monté sur des fourgons. On n'a jamais de tuyau complètement construit. Il ne faut pas imaginer qu'on a toujours un tuyau en nous disant « un tel a fait ci, a fait ça ». Toujours des intuitions, des bribes d'informations qu'on doit reconstruire. Donc, à la base, on n'a que ça. Et donc, on commence à travailler un peu dessus. On voit qu'en effet, il est en cavale. Petit à petit, on a quelques échos qui nous disent qu'il serait possiblement monté sur d'autres attaques de fourgons blindés sur la région parisienne. Et donc, comme on a un groupe en particulier qui est chargé de retrouver des personnes en cavale, on commence à travailler dessus, mais sans faire le lien avec d'autres affaires.
Et en 2000, il y a ce braquage à Gentilly, en région parisienne. En 2001, autre braquage, celui de la Valiance à Toulouse. Et à chaque fois, vous pensez qu'Antonio Ferrara fait partie d'une équipe qui mélange à la fois des petits voyous de son quartier et des figures du milieu marseillais. Et ça vous surprend ?
Oui, parce qu'il faut reconnaître que tous autant qu'on était, on avait des schémas pour nous. Par exemple, on avait des portables qui étaient partis de Paris, qui étaient descendus pour braquer avec d'autres venant de Corse. Donc on cherchait des Corses continentaux qui habitaient à Paris. Mais on n'imaginait pas des mélanges d'équipes comme ça. On a toujours eu des voyous de cités périurbaines, de quartiers comme ça, qui petit à petit montaient. Hein, parce que les gros voyous, ils sont rarement issus du 16e arrondissement. Mais il y avait tout un parcours avant d'y arriver. Là, vraiment, on a eu une droite ligne entre la cité et le grand banditisme.
Et comment se fait-il qu'Antonio Ferrara arrive si vite dans le grand banditisme ?
Il est venu par les stupes, en fait, au début. C'est-à-dire que dans le cadre d'affaires de trafic de stupes, il a rencontré des gens qui connaissaient par ailleurs des Corses, qui étaient d'ailleurs en cavale. Et puis, on a une personne comme ça qui s'est dit que finalement, ça serait bien de les présenter. Et il les a présentés et ça a matché. C'est quelqu'un de plutôt sympa. Mais il a une autre qualité aussi, c'est qu'il fait bien le boulot. Donc au début, les gros voyous lui ont plutôt demandé, visiblement, de trouver des voitures, de faire des petites tâches comme ça. Il a toujours fait, il a jamais planté, il était toujours à l'heure. Parce que c'est compliqué chez eux. On a parfois des gens qui sont pas, qui viennent pas, qui ont fait la fête avant, qui sont pas ponctuels. Lui, il a toujours fait le boulot. Donc il a commencé, autant qu'on sache, à rentrer comme ça par le petit bout. Et puis il s'est imposé petit à petit. on a des écoutes de voyous de la Dream Team. C'était des voyous de la banlieue sud et quelques-uns du sud-est. Mais il parle de lui à un moment, il dit « T'as vu le petit, je t'avais dit, il est bien, il est à l'heure, il nous a trouvé les bagnoles. » Donc ça, on collera les informations après, mais on pense qu'il parlait de lui. Finalement, cette affaire de Gentil dont on parlait tout à l'heure, qui lui ouvre vraiment la porte, parce que comme les collègues de la BRI et de la BRB parisienne interpellent une grosse partie de l'équipe suite à l'attaque du Faucon Blindé Gentilly, et qu'ils ont d'autres affaires à venir, parce qu'ils programment d'autres attaques de Faucon Blindé, il faut du monde pour compenser le manque. Ils se tournent vers lui, et lui vient avec quelques voyous de cité qui l'accompagnent, puis ça marche, et puis petit à petit, il prend de plus en plus de place.
Il se trouve qu'à l'époque, on lui prête aussi un rôle d'artificier hors pair. Est-ce que c'est cette compétence avec les explosifs qui le rend aussi indispensable pour attaquer des fourgons blindés ?
Ce qui est certain, c'est qu'il n'a jamais été condamné, il faut le rappeler, pour des attaques de fourgons blindés. C'est important. Hein, donc après, on peut faire des supputations. Bon, on a des informations qui nous laissent à penser que sur certaines attaques, il aurait pu placer le cadre explosif. Donc il aurait vraisemblablement des compétences. Mais ça ne fait pas de lui l'expert de l'équipe. Je pense que si toutefois il a acquis ces compétences, il l'a acquis auprès de voyous plus confirmés lors de sa détention, vraisemblablement. Et puis c'était pas l'artificier de l'équipe, parce que je rappelle quand même qu'il y a bien un artificier qui lui a ouvert la porte pour qu'il sorte de prison, donc il n'était pas le seul à savoir s'en servir.
Mais comment ça se fait qu'une équipe prenne autant de risques pour le faire libérer de Fresnes ?
Je pense que c'était une équipe extrêmement soudée. Il y avait des liens très forts entre eux. Ils avaient quand même vécu pendant des années des faits d'armes particulièrement marquants. Ils étaient très liés. Et par ailleurs, on le disait tout à l'heure, Ferrara avait un rôle important pour fédérer des jeunes de cité et des très gros voyous. Ma conviction, c'est que certains jeunes de cité qui étaient auprès de lui savaient qu'il n'arriverait pas à remonter des affaires solides avec des voyous confirmés du grand banditisme si Ferrara n'était pas là.
En tout cas pour les enquêteurs, après cette évasion, c'est un retour à zéro.
Mais c'est difficile tout de suite, hein, parce que comme je vous l'ai souligné, c'est deux évasions coup, sur deux très grosses prises. Il faut tout reprendre, mais il faut tout reprendre en plus avec des cartouches brûlées, parce que évidemment, la première fois, les voyous ne sont pas supposés savoir qu'on connaît leurs copines, qu'on connaît leurs copains. Cette fois-ci, ils le savent, donc il faut trouver d'autres pistes à exploiter. Les enquêteurs à l'OCRB étaient très motivés, mais ce jour-là, ils étaient quand même abattus. On peut penser qu'on part sur des années d'enquête de nouveau, donc c'est pas agréable. Mais bon, ils désarment pas, les gars, ils bossent extrêmement bien. On a la chance, et ça c'est important, c'est incident, mais ça joue sur l'interpellation de Ferrara, de retrouver extrêmement vite son complice Manconi. Et ça redonne du ressort à l'équipe. Et en plus, on n'en a plus qu'un sur lequel se concentrer. Et on met tous nos efforts, et ça nous permet de le retrouver assez rapidement.
La première piste, vous l'avez finalement quasiment tout de suite, c'est ça ?
Ça, ce sont les collègues de la BRB, encore une fois, qui travaillent sur les conditions de l'évasion, qui effectivement retrouvent un téléphone portable dans une veste de sport, il me semble, dans la cellule qu'il a abandonnée dans la panique en partant. Pendant l'arrachage, alors qu'il s'enfuit, le portable qui était en communication avec celui qui est laissé dans la cellule, est activé par erreur. En s'asseyant dessus, probablement, il rappelle et en définitive, il laisse un message en sonorisant l'intérieur de la voiture. Et il y a une courte conversation où on comprend qu'un des malfaiteurs a été blessé. Il dit « Mais moi, j'ai perdu mon œil dans cette affaire. » Il a un accent plutôt méridional, voire corse. Et les autres l'appellent Doumé. Ferrara dit à un moment « On va trouver un médecin. » C'est important, surtout pour le Doumé, parce que ça nous permet d'avoir une piste pour essayer de retrouver un blessé qui, lui, pourrait nous mener au reste de l'équipe.
Et quelle est votre intuition à ce moment-là ? Où est-ce que vont Ferrara, à votre avis, et son équipe ?
On a toutes sortes d'informations. On le voit partout, on le voit à l'étranger. Il y a deux scénarios possibles. Soit il s'éloigne et puis il attend que ça repose, quoi. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup d'argent de côté. Et puis, il faut accepter de s'éloigner aussi de ses proches. Et puis, je pense aussi que quand on est au cœur de ce qui se passe, on existe aussi. Hein. Quand on est au fond, au bout du monde, on... Et voilà. Et la deuxième solution, c'était le risque qui remonte avec ses complices sur des affaires de braquage. On n'en a jamais eu la conviction judiciaire, il n'a jamais été condamné pour tout ça. Mais on pense qu'il était dans l'entourage de toute une équipe qui a été interpellée par la BRB et la BRI de Paris en mai 2003. Donc c'est juste après l'évasion, alors qu'il tentait d'attaquer un faucon blindé à Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne.
Alors l'enquête se poursuit, Christophe Molmy, et elle se concentre sur les numéros de téléphone d'Antonio Ferrara et de ses proches.
Sans rentrer trop dans le détail, il y a tout un travail de terrain, d'ambiancement autour de ses proches, qui petit à petit nous permet d'isoler certains téléphones portables. On avait une cellule, on avait des collègues qui ne travaillaient que sur la téléphonie, et je me rappelle qu'à l'époque, dans l'ensemble de l'enquête, ils avaient travaillé, brassé 80 000 numéros de téléphone. Donc c'est énorme, avec des logiciels qui permettent de le faire. Donc ils sont quand même extrêmement vigilants. Hein. Mais on arrive petit à petit à récupérer des numéros intéressants. Et la collègue en particulier qui travaillait dessus, qui était chef de cette cellule, nous désigne deux ou trois numéros en disant « Moi, je suis persuadé que ces numéros-là sont vraiment au cœur. » Ils ne sont pas actifs, en fait. Et ils fonctionnent, mais il n'y a pas d'appel dessus. On les branche par acquis de conscience. Alors qu'on ne s'y attend pas, on a un appel qui tombe sur un de ces numéros. On reconnaît la voix d'Antonio et on comprend que c'est un de ses frères qui l'appelle et que son frère est à Paris et que lui est à Saint-Raphaël.
Mais qu'est-ce qu'ils se disent ?
Ils parlent de filles. Ferrat dit d'ailleurs qu'il vient de voir passer une jeune fille à côté de lui en maillot de bain. C'est une première indication. Et puis, on comprend qu'il parle d'affaires, qu'il parle à mots couverts, peut-être d'un lance-roquette, qu'il a vu quelqu'un. Il parle de braquage. Hein. Et donc, pour nous, ça change tout parce que c'est la première fois où, de manière claire, péremptoire, on sait qu'il est en France, puisque immédiatement, on localise le téléphone et il borne à Saint-Raphaël. Et Saint-Raphaël, c'est loin de Paris, mais c'est en France, donc c'est à portée de main. Depuis l'évasion, c'est la toute première fois qu'on a quelque chose de vraiment solide. Donc, on monte une équipe commune avec la BRB et on part à Saint-Raphaël pour essayer de le trouver. On n'a emmené que des collègues qui n'étaient pas sur la première interpellation, parce que comme il est extrêmement physionomiste, on ne pouvait pas se permettre de se faire détroncher et puis que tout soit raté. On descend à Saint-Raph, et enfin, on comprendra après, en discutant avec lui, comme ça, en off, qu'on s'est tourné autour. D'ailleurs, le soir, avant de remonter à Paris, je me souviens qu'on a dîné dans un restaurant près du port, dans un endroit où vous avez deux restaurants dos à dos près de la marina. Et eux étaient dans un resto et nous dans l'autre, mais pas dans les mêmes restos. Et en fait, on s'ignore. Quand on l'a compris, tous les deux, on dit putain, on n'est pas passé loin quand même. Hein. Parce que là, vous aviez une douzaine de flics dans l'un, une douzaine de voyous dans l'autre. Et si on était tous dans le même resto, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais on s'ignore, comme c'est le hasard. Hein.
Donc là, vous êtes à Saint-Raphaël, vous dînez dans des restaurants voisins, mais sans jamais vous voir. Et c'est là que vous apprenez qu'il remonte à Paris.
On comprend qu'il remonte à Paris parce qu'on a un autre voyou qui l'appelle, qu'on identifie comme étant ami Dakar. Elle ne donne pas son nom, mais un surnom. Et on a des collègues au service qui travaillent à la doc et qui connaissent tout ce milieu-là. Et ce voyou, Akar, doit lui fournir des faux papiers. Et il se donne rendez-vous à Paris. Alors, ils ne disent pas l'endroit exact, hein, mais on a un créneau à peu près. Et il se donne rendez-vous sur Paris, de manière générique, quelques jours après. Donc, on comprend qu'il va remonter de Saint-Raph. Donc on remonte aussi. On continue quand même à essayer de travailler sur la téléphonie, mais on n'arrive pas à isoler l'endroit où il se trouve. Il faut quand même souligner que Akar, donc celui qui doit fournir les faux papiers, est lui-même quelqu'un qui est en cavale, donc on ne sait pas où il est à la base. Donc ça fait beaucoup de gens comme ça, des fantômes qu'il faut essayer d'attraper. Donc c'est un fantôme qui nous mène à un fantôme, là, en l'occurrence. Et on a juste une information, c'est qu'Akar doit prendre livraison d'un véhicule près des Trocadéro. Et donc, on se met au Trocadéro et on a la chance de le voir arriver. Et là, ça nous fait un fil à tirer. Et il nous mène jusqu'à Convention.
Dans le 15e arrondissement de Paris.
Il rentre dans un café et en fait, il n'a pas du tout rendez-vous avec Ferrara dans ce café, mais avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec Ferrara. Il a groupé ses rendez-vous. Donc, on a un peu de mal à comprendre. Mais on est tous là, en train de grenouiller autour. Et puis finalement, on a une conversation qui tombe. Et il appelle Nino, il dit « Mais t'es là ?» Il dit « Oui, je suis là. » Il dit « Ben, j'arrive. » Et on voit sortir Akar du café, traverser. Et c'est là qu'on comprend qu'il est juste à côté de nous, dans un autre café. Quoi. Et en fait, c'est trop tard. On voit Ferrara se lever. Et il nous dira après « J'ai pas senti parce que j'ai vu beaucoup de types avec des téléphones portables. » Il n'est pas sûr. Il ne voit pas des flics avec des brassards lui courir dessus. Mais il sent une ambiance. Ça lui suffit, il demande à son complice qui conduit la moto de la démarrer. Donc il monte sur la moto, Akar donc monte aussi, ils partent à trois, puis ils prennent une rue à sens unique et ils s'en vont. Mais là on bouge pas parce que si vous courez après, vous confirmez le doute, c'est pire que tout. Donc c'est dur sur le coup, mais bon, on serre les dents et on se raccroche à la téléphonie, puisqu'on a quand même quelques téléphones. Et on les suit de loin sur de la géolocalisation. On a une conversation où on comprend que apparemment Akar est descendu de la moto et doit se faire déposer en taxi à un endroit et être récupéré par le motard qui accompagne Ferrara. Et tout ça nous ramène à une zone simplement à Bercy. Une cellule téléphonique, c'est quand même assez large. Ça peut faire un rayon de 800 mètres. On se déploie dans la zone et petit à petit, on retrouve la moto qui est garée devant le bar. Malheureusement, c'est un bar qui a des vitres opaques. Et de l'extérieur, on ne peut pas voir ce qui se trouve à l'intérieur. Le café, le Peanuts, qui n'existe plus d'ailleurs, hein, mais le Peanuts était curieusement fait. Il y avait deux portes en fait, pour rentrer de chaque côté. Et, il y a une sorte de couloir qui faisait le tour du comptoir. À un moment, il faut prendre une décision. Soit on attend, on essaie de confirmer, mais on a le risque qu'il monte sur la moto et qu'il s'arrache et qu'on n'arrive pas à l'interpeller, qu'on le perde. Ou qu'on essaie de le faire, que ça se passe mal et qu'il nous échappe et que cette fois-ci, il soit certain que ce soit pour lui et qu'on ne le voit plus. Ou bien on rentre dans le bar. Mais en rentrant dans le bar, on a le risque qu'il ne soit plus là. Il aurait pu, lui, déjà partir et son chauffeur récupérer à car juste pour récupérer les papiers. Donc, il faut faire un choix et je prends la décision de rentrer. On monte deux équipes qui permettent de rentrer simultanément par les deux portes. Et il y a un moment, on pousse les portes et on rentre. Ils sont au fond à gauche. Donc, équipe de gauche, moi je suis à droite, les voit au fond. Les deux premiers n'ont même pas le temps de réagir, ils sont foudroyés, ils sont interpellés immédiatement. Et Ferrara, qui a vraiment de l'instinct, il saute de son tabouret, il part en courant, il essaye de sortir de l'autre côté par l'autre porte. Et il percute la deuxième équipe qui est en train de rentrer. Il se trouve que moi je suis devant, donc comme il me fonce dessus, et il faut bien l'arrêter. Donc, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de lui mettre un coup de poing. Et ça permet de le stopper et aux collègues de l'interpeller, mais il était sûrement trop appuyé puisque je me suis cassé un métacarpe.
Ah oui, vous vous cassez la main pendant l'interpellation. Vous étiez donc main nue, désarmé. Pourquoi ?
C'est-à-dire que face à des voyous comme ça, on le connaissait. Hein, le braquer et lui dire « arrête-toi », ça sert à rien. On va pas lui tirer dessus non plus. Donc la meilleure solution, c'est de l'attraper, quoi, d'aller au contact. Et dans ces conditions-là, enfin, en tout cas, moi, je préfère avoir les mains vides. Quitte à prendre un risque, mais il y a des collègues derrière hein, quand même. Hein. Et donc je suis à main nue, je le vois arriver, mais je ne le reconnais pas hein, d'ailleurs. Hein. Je vois quelqu'un qui arrive en courant, je comprends intuitivement ce qui se passe. Et puis bah, face à quelqu'un qui vous fonce dessus, qui veut partir, vous n'avez pas tellement le choix. Hein.
Donc à ce moment-là, Antonio Ferrara est amené en garde à vue, procédure classique. Et là, il vous voit arriver précisément avec votre plâtre. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là ?
C'est-à-dire qu'il me voit arriver, il me dit « mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Donc je lui dis « c'est toi ». Il me dit « ah bon, qui comprend ?» Il me dit « je suis désolé ». Je dis « c'est pas grave, c'est le boulot, c'est les jeux hein. ». Il me dit « si tu veux, je te le dédicace ». Bon, je trouvais ça drôle sur le moment. Je dis « bah ouais, si tu veux ». Donc il me l'a dédicacé, c'était plutôt rigolo. On a mangé avec mon adjoint Sébastien Lothar, on a mangé une pizza avec lui, on a bu un coup et puis on a passé un moment à discuter. On se dit pas tout, hein, ni lui ni nous. Mais bon, on a pu confirmer pas mal de choses, c'était intéressant. Et puis, il ne faut pas se mentir, c'est quand même bien, on l'a interpellé, on a envie de le voir et de discuter un peu avec lui quand même. Quand on a un voyou comme ça, qui a un minimum de tenue, qui est agréable, avec qui on peut parler, et puis qui a un palmarès pareil, on est content d'échanger. C'est un beau voyou, un beau mec, comme on dit dans le jargon policier. C'est surtout qu'on considère que ce sont des voyous, d'abord, qui ont un palmarès criminel qui se tient, et puis c'est aussi des types qui se tiennent droit quand ils sont interpellés. Quoi. Ils se mettent pas à chouiner. Hein. Là, il partait pour des années. Là, en l'occurrence, il est encore depuis 18 ans. Bon, bah, il se répandait pas en pleurant. Moi, je trouve que il avait quand même du coffre, il faut le reconnaître.
Et d'ailleurs, vous l'avez recroisé, Antonio Ferrara, qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Réau en Ile-de-France, et vous avez même parlé avec lui.
Quelques minutes, oui. Je lui ai demandé comment il allait. Voilà, ce sont des banalités, mais ça l'a fait marrer. Ouais. Avec le recul, c'est quand même une partie de ma vie professionnelle. Hein. J'ai passé, avec tous les collègues, on a passé 2 ans et demi à lui courir derrière. Donc c'est un gros pan de la vie professionnelle, donc ça reste, quoi.
Pendant l'un de ses procès en 2018, Antonio Ferrara a déclaré « J'avais de grandes ambitions, ça n'est plus le cas aujourd'hui », comme s'il disait que pour lui, cette vie-là était terminée. Vous y croyez, vous ? Vous croyez qu'un homme comme Antonio Ferrara peut vraiment changer de vie ?
Qu'on puisse changer de vie, oui, j'en ai déjà vu d'autres hein, changer de vie. Hein. Est-ce qu'il le fera lui ? Il y a que lui qui peut vous répondre, mais j'ai quand même la conviction qu'avec le temps, il s'est un peu assagi. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera forcément un citoyen modèle, hein. Mais moi, je ne le vois pas remonter avec une calache à la main sur un fourgon, mais on peut se tromper.
Vous venez d'écouter l'épisode des Voix du Crime consacré à Antonio Ferrara, le roi de la belle. Vous pouvez le réécouter et découvrir les autres épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et toutes vos plateformes de podcast préférées.